J'ai choisi deux textes de la parole de Dieu pour la prédication d'aujourd'hui. Le premier se trouve dans le livre des psaumes, psaume 78, à la page 585, si vous utilisez la Bible qui est devant vous. Psaume 78, page 585, vous pouvez suivre avec moi la lecture des huit premiers versets. Bien sûr, c'est un psaume assez long et je vais m'en tenir aux huit premiers versets. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Poème d'Asaph. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés, il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Pour que la connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Notre deuxième texte se trouve dans la lettre aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, donc beaucoup plus loin. Éphésiens chapitre 6, à la page 222 du Nouveau Testament, donc vers la fin de votre Bible. Nous avons déjà vu il y a quelque temps quelques passages dans Éphésiens 5 à propos des épouses, à propos des maris. Et on a vu aussi dans ce texte une parole adressée aux enfants. Lisons Éphésiens 6, les versets 1 à 4, et nous allons nous concentrer sur le verset 4 à propos des pères aujourd'hui. Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Prions afin que Dieu nous éclaire. Père céleste, ta parole est la vérité, pure et limpide, douce et puissante, pénétrante, transformante, parole de vie, parole d'espérance, parole d'appel qui nous appelle à toi, à nous consacrer à ton service, nous et nos enfants. Daigne aujourd'hui, notre Dieu, faire ton œuvre puissante dans le cœur de chaque personne ici présente, que ton esprit nous éclaire. Que ton esprit pénètre profondément dans nos cœurs et nos pensées, chasse toute résistance en nous qui s'oppose à ta parole, mets en nos cœurs une disposition favorable afin d'accueillir par la foi, dans la joie et la reconnaissance, cette merveilleuse parole. Éclaire-nous, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers invités, parents et familles qui êtes rassemblés ici aujourd'hui, l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle à toute l'Église rassemblée. Et l'Esprit de Dieu parle à chaque personne, en particulier dans l'Église. C'est magnifique. Dieu nous connaît parfaitement chacun, chacune d'entre nous. Il prend soin de chacun de ses enfants. Il a une parole tout à fait à propos pour chacun et chacune d'entre nous. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu parle particulièrement aux pères de famille, aux papas. Oui, Dieu s'adresse à vous, les papas. Alors, écoutez bien. Mais les autres aussi sont appelés à écouter, bien entendu. Quand Dieu parle aux pères, les mères également sont intéressées à écouter, à entendre ce que Dieu a à leur dire. Et les enfants aussi. Dieu parle à mon papa. Je veux savoir ce qu'il va lui dire. Je suis curieux d'entendre, n'est-ce pas, les enfants? Ça intéresse les grands-parents. Ça intéresse les amis, les frères, les sœurs dans la foi, l'entourage. Oui, toute l'Église écoute attentivement, car le rôle des pères est très important, non seulement pour la famille, mais aussi pour le bien de toute l'Église et pour le bien de la société. Alors, qu'est-ce que Dieu dit au papa? En résumé, il dit ceci, « Vous les pères, soyez remplis de l'Esprit-Saint, afin d'éduquer vos enfants dans le Seigneur sans les irriter. Vous, les pères, soyez remplis de l'Esprit-Saint afin d'éduquer vos enfants dans le Seigneur sans les irriter. » Nous verrons trois éléments, trois parties. Je découpe la matière en trois. Premièrement, qui est responsable d'éduquer les enfants? Deuxièmement, une mauvaise façon de les éduquer. Et troisièmement, une bonne façon de les éduquer. Donc, premièrement, qui, donc, est responsable d'éduquer les enfants? Oui, ce sont les papas, ici, que l'Esprit-Saint interpelle en Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères! » Pourquoi Paul s'adresse-t-il aux pères? Pourquoi pas aussi aux mères? Paul aurait-il été conditionné culturellement dans son ancienne culture avec un environnement patriarcal révolu, ancien, vieillot? Non. Notre Dieu est souverain au-dessus de toute culture, contrôle toute l'histoire, et le Saint-Esprit s'est servi librement de l'expérience de Paul, de la plume de Paul, pour nous transmettre la parole de Dieu exactement comme il l'a voulu. C'est la parole de vérité. Et vous, pères? Oui, mais les mamans n'ont-elles pas un rôle essentiel à jouer dans l'éducation des enfants? Très certainement. D'ailleurs, très souvent, c'est elles qui s'occupent beaucoup plus des détails de l'éducation au quotidien, n'est-ce pas? C'est indéniable. Et Paul reconnaît volontiers leur rôle très important quand il dit, par exemple, qu'il a pris soin des chrétiens de Thessalonique avec beaucoup de douceur, comme une mère prend soin de ses enfants, dit-il. Donc, il a bien observé les mères qui prennent soin de leurs enfants. Proverbe 1, 8 nous dit, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Père et mère sont impliqués dans l'instruction, dans l'enseignement de leurs enfants. Oui, Dieu a confié aux mamans un rôle essentiel auprès de leurs enfants. Vous, les jeunes mamans, vous avez besoin d'apprendre à exercer ce rôle de manière pratique et concrète au quotidien. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à apprendre, à développer. Vous avez également besoin d'apprendre à aimer ce rôle, dans vos cœurs. Peu importe ce que les autres autour en pensent ou en disent, parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est passablement dévalorisé, malheureusement. Prions pour que l'amour du Christ vous remplisse, que la puissance de l'Esprit-Saint vous donne un tel amour pour ce rôle si important de maman auprès de vos enfants, et aussi que vous puissiez acquérir petit à petit une habileté pratique à le faire. Donc, les mamans ont un rôle essentiel, c'est indéniable. Et pourtant, on revient à notre texte. Et vous, pères, pourquoi donc les pères? Paul a-t-il détecté chez les pères une faiblesse particulière, peut-être? Et il veut redresser la situation, la tendance à hériter leurs enfants, c'est ce dont il parle ici en premier. Oui, c'est vrai, les pères doivent faire très attention à ce danger, je pense qu'on peut le reconnaître, hériter nos enfants. Pourtant, les mamans sont bien capables, elles aussi, d'exaspérer leurs enfants parfois. Paul soupçonne peut-être que les pères ont plus facilement tendance à être absents, négligents, loin de leurs enfants. Ils partent tôt le matin, reviennent tard le soir, sont fatigués, ont beaucoup à faire. D'autres, oui, c'est vrai, ils ont besoin de se faire rappeler leurs responsabilités parentales. Les pères ont toujours besoin d'être rappelés à l'ordre, c'est vrai, mais les mères aussi en ont besoin. Pourquoi Paul n'exhorterait-il pas aussi les mères? Au baptême d'un enfant, vous avez remarqué, père et mère, tous les deux, prennent un engagement solennel devant Dieu à éduquer leur enfant. Tous les deux. Tous les deux ont besoin régulièrement de se demander « Suis-je fidèle à mes engagements? » Sinon, pardon Seigneur, aide-moi à être davantage fidèle. Tous les deux ont besoin de compter sur la grâce de Dieu avec son pardon, avec la puissance promise de son Esprit Saint pour s'améliorer dans leur vocation de père et de mère. Mais voyez-vous, Paul ne s'est pas dit « je vais taper aujourd'hui sur les pères particulièrement parce que ce sont eux les grands fautifs d'une mauvaise éducation ». C'est pas ça que Paul se dit ici. Non, le monde moderne a beaucoup tapé sur les hommes, n'est-ce pas? À tel point de les décourager d'être de vrais hommes. C'est assez de taper uniquement, essentiellement sur les hommes, sur le Père. Le Saint-Esprit n'utilise pas cette méthode. Le Saint-Esprit s'adresse au Père ici pour une raison bien simple. Et cette raison, en fait, elle nous est déjà donnée au chapitre précédent, en Éphésiens 5, 23, à propos du rôle du mari et de la femme. Éphésiens 5, 23 qui nous dit « Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. » Et par conséquent, par implication, le mari est le chef de la famille. Un chef serviteur, comprenons bien, qui se sacrifie par amour pour son épouse, comme le Christ s'est sacrifié par amour pour son Église. Je ne reviens pas sur ce sujet dont j'ai déjà traité, que j'ai déjà traité il y a quelque temps. Pourquoi ici l'Esprit de Dieu s'adresse-t-il seulement au Père? Parce que c'est au Père que Dieu a confié la responsabilité de donner la direction à la famille, incluant la direction dans l'éducation des enfants. Je vous laisse le temps d'absorber cette phrase. Dieu a confié la responsabilité de donner la direction à la famille, incluant la direction dans l'éducation des enfants. Psaume 78, 5, que j'ai lu précédemment. Dieu a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à qui? À nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la génération future la connaisse à son tour. Il a ordonné à nos pères. Nous sommes tellement indignes, nous les pères, de cette vocation. Pas parce qu'on en est dignes, très loin de là. Nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour exercer cette vocation. Comprenons bien, il existe une différence importante entre autorité et responsabilité. C'est pas la même chose exactement. Dieu a donné au père et à la mère la même autorité parentale. Le cinquième commandement en a posé le fondement une fois pour toutes. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Les enfants sont tenus d'obéir à leur père et à leur mère. Et quand vous regardez dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, Paul leur dit d'obéir à leurs parents et cite ce cinquième commandement. Donc, l'autorité parentale est la même pour les deux. Mais le mari et la femme, dans leur rapport entre eux, n'ont pas la même responsabilité parentale. Le père a reçu de Dieu la responsabilité de direction que la mère n'a pas reçue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si maman demande une chose à l'enfant, papa appuie maman. Il ne la contredit pas devant l'enfant. Il rehausse l'autorité de maman, il ne mine pas son autorité. Si papa, à son tour, demande quelque chose à l'enfant, maman ne le contredit pas devant l'enfant non plus. Elle rehausse l'autorité de papa. Ne minez jamais l'autorité de l'autre devant vos enfants. Inculquez-leur ce précieux commandement à la place. Honore ton père et ta mère. C'est très important, c'est essentiel. Mais, quand le mari et la femme ne sont pas d'accord sur la façon d'élever leurs enfants, ça peut arriver. Je ne regarderai pas trop directement. Ou bien quand c'est le temps de prendre des orientations, on doit réévaluer notre approche avec nos enfants, quand c'est le temps de faire des correctifs ou de simplement se parler sur comment on éduque nos enfants, allez vous en parler tous les deux à part, là, dans votre chambre ou quelque part tranquille, loin des oreilles de vos enfants. Consultez-vous, priez ensemble le Seigneur. Lisez sa parole, soyez attentifs à ce qu'il nous dit dans sa parole. Profitez des idées, des talents, de l'expérience de l'un et de l'autre. C'est très riche. L'épouse peut observer beaucoup de choses. Peut-être que le mari et le père ne voient pas. Et inversement, le père peut avoir une perspective plus large sur la situation. Et ensuite, l'épouse, remplie de l'esprit, acceptera humblement la direction donnée par son mari. Et le mari, rempli de l'esprit, donnera courageusement la direction pour servir sa famille, la direction dans la manière d'éduquer les enfants. Même autorité, responsabilité différente, et les deux font équipe, bien entendu. Vous, les mamans, faites donc confiance à votre mari. Faites confiance dans la sagesse de Dieu qui a lui-même voulu que votre mari soit le père de vos enfants. Laissez votre mari exercer sa vocation de père et de donner la direction. Il fera des erreurs, c'est certain qu'il va faire des erreurs, mais vos enfants n'en mourront pas. Il vaut mieux un père qui fait des erreurs en exerçant et en prenant ses responsabilités de père plutôt qu'un père qui ne fait pas d'erreur parce que tellement découragé, il a renoncé à son rôle et que c'est la mère qui s'occupe de toute l'éducation de l'enfant. Et vous, les papas, acceptez ce défi que Dieu vous lance, ce mandat que Dieu vous donne. Cherchez sa grâce, priez pour la sagesse. Dieu promet sa sagesse. Comptez sur la puissance de son Esprit Saint pour vous transformer, vous guider. En exerçant votre responsabilité de père, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des échecs, il y aura des luttes, il y aura des réussites. Souvenez-vous que Dieu a promis, c'est lui qui a promis de vous donner sa grâce à vous et à vos enfants. Ça ne dépend pas de vous ultimement. Cette promesse a été signifiée et scellée aujourd'hui au baptême et au baptême de vos enfants. Elle a été signifiée et scellée quand votre enfant a été baptisé. C'est ça qui donne la liberté et la confiance d'éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons avec tous ces défis. Liberté et confiance de le faire parce que Dieu a fait de grandes promesses pour nous et nos enfants. Ceci m'amène à notre deuxième partie, une mauvaise façon d'éduquer les enfants. Oui, il y a des mauvaises façons. Paul en relève une ici. Au verset 4 encore, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Comprenons bien, l'apôtre Paul n'a pas écrit ici un livre complet sur l'éducation des enfants. Il ne nous donne pas une longue liste de conseils pratiques pour parents en détresse non plus. Ce n'est pas son but. Donc, c'est quand même très court ce qu'il écrit. Son but, dans sa lettre, c'est d'annoncer le glorieux évangile de Jésus-Christ. Et c'est d'édifier l'Église au moyen de cet évangile. C'est ça son but. Dans les 5 premiers chapitres de cette lettre aux Éphésiens, il nous explique la bonne nouvelle du pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. et nous annonce le salut sans les œuvres, par pure grâce, par la foi seule en Jésus-Christ. Il nous décrit en détail la vie nouvelle en Jésus-Christ, qui nous fait abandonner nos péchés, notre vie mauvaise, et qui nous fait vivre dans une obéissance nouvelle par la puissance de l'Esprit-Saint. Et ensuite, ce qu'il dit aux épouses, aux maris, aux enfants, aux pères, a pour but d'illustrer cette vie nouvelle. Et pas de donner un texte de conseil pratique simplement pour l'éducation des enfants. C'est intégré dans le message de l'Évangile. À quoi ressemble concrètement la vie nouvelle en Jésus-Christ? À beaucoup de choses, mais ici, à un Père rempli de l'Esprit qui n'irritera pas ses enfants, mais qui les éduquera et les corrigera dans le Seigneur. Nous ferons bien de nous souvenir de cette perspective. Bien sûr, il est utile de consulter des livres dédiés à l'éducation chrétienne. On peut en retirer beaucoup de conseils. C'est utile de chercher l'aide de conseillers spécialisés quand des besoins spéciaux surgissent. Mais premièrement, vous les pères, soyez remplis de l'Esprit. Vivez dans l'union avec Jésus-Christ, tel que Paul le décrit dans tous ses chapitres de cette lettre. Et alors, vous porterez du bon fruit. Quel fruit? N'irritez pas vos enfants. Irriter quelqu'un, c'est quoi? C'est le faire fâcher. C'est le mettre en colère. C'est l'exaspérer. Irriter, quand la peau est irritée, hein, c'est douloureux, c'est tannant. Quand les parents exaspèrent un enfant, ça le décourage, ça le démotive. Ça peut produire un profond ressentiment dans son cœur. Hein. C'est très dommageable pour l'enfant. Comment risquons-nous d'irriter nos enfants? Par exemple, quand nous passons sur eux nos frustrations, nos fatigues de la journée, quand nous avons des paroles dures, quand nous leur faisons des réprimandes exagérées, quand nous les punissons trop sévèrement. Nous irritons nos enfants quand nous changeons continuellement nos règles aussi. Les enfants ont besoin d'un cadre précis, avec des règles, des conséquences, des récompenses, qui demeurent constantes. Ils ne changent pas tout le temps. Ils doivent pouvoir compter sur des paroles fiables. Il y a des parents qui disent parfois, « J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Ça, rien ne marche. » C'est peut-être ça le problème. Ils ont trop essayé de choses. Il faut une cible, il faut une direction. Bien sûr, on doit se corriger des fois, mais garder le cap et que nos paroles demeurent fiables. Nous irritons nos enfants quand nous soulignons trop leurs fautes, leurs difficultés scolaires, nous les pointons tout le temps, leurs points faibles. Oui, c'est bon de corriger leurs faiblesses, bien sûr, mais c'est mieux de les encourager à développer leurs forces, leurs talents que Dieu leur a donnés. Nous irritons nos enfants quand nous ne les traitons pas selon leur âge, selon leur degré de maturité. Nous n'aurons pas les mêmes attentes envers un enfant de 2 ans qu'envers un enfant de 8 ans ou envers un jeune de 15, 16, 17 ans, bien sûr. Les tout-petits ont encore besoin des bras de maman et de la sécurité du foyer. Mais malheureusement, aujourd'hui, on demande aux enfants d'être autonomes beaucoup trop tôt. Ça peut les irriter aussi. L'autonomie prend du temps. Ils ont besoin des bras de leur maman, la sécurité du foyer. On expose les enfants beaucoup trop jeunes à toutes sortes de réalités trop lourdes pour leurs petites épaules. Il faudrait qu'ils soient adultes, qu'ils comprennent tous les problèmes éthiques, toutes les misères du monde. Laissons les enfants, dans leur naïveté d'enfance, vivre leur enfance en toute simplicité. La gestion des appareils électroniques est un gros défi à cet égard. Un gros défi. En même temps, nous irritons nos enfants si nous les surprotégeons. C'est un peu l'inverse. Les surprotéger, ils doivent quand même apprendre à être confrontés au mal pour apprendre comment réagir face au mal, comment faire des bons choix, en étant bien sûr soigneusement guidés par leurs parents, selon les étapes où ils sont rendus. Et peut-être l'une des pires façons d'irriter nos enfants, c'est de leur enseigner les vérités de la parole de Dieu et ne pas les vivre nous-mêmes. Ça s'appelle l'hypocrisie. Nous leur prêchons de très belles choses, mais leurs yeux très observateurs voient tout le contraire dans nos vies. Les enfants sont des spécialistes à détecter l'incohérence des parents. D'où la grande importance de ne pas les irriter, car sinon, ils risquent de se détourner de Jésus-Christ et de se dire « c'est une bande d'hypocrites ». D'où la nécessité de vivre par la foi nous-mêmes, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est le seul antidote. Nos enfants ont besoin de savoir et de voir que nous sommes des parents pécheurs et pardonnés par le sang de Jésus. Ils ont besoin de voir le fruit de l'Esprit dans nos propres vies. Même si ce n'est qu'un petit commencement, les parents remplis de l'Esprit n'hériteront pas leurs enfants. Vous comprenez? C'est la responsabilité première des papas, avec l'aide et le soutien des mamans. Que le Seigneur nous pardonne nos péchés à cet égard et que son Esprit nous remplisse de sa présence. Troisième partie, une bonne façon d'éduquer les enfants. C'est important d'être averti d'une mauvaise façon, mais aussi d'être informé d'une bonne façon. Au verset 4, Paul ajoute « Élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur ». Il ne s'agit pas simplement d'un bon conseil, d'une belle méthode proposée par un spécialiste, un pasteur, un conseiller, non. C'est la volonté de Dieu même pour la famille. C'est un commandement de Dieu très haut adressé au père de famille. Les deux verbes, ici il y a deux verbes, « n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les », sont au présent continu dans le texte grec. C'est-à-dire, c'est une action continuelle que les pères doivent accomplir continuellement, chaque jour, aidés et soutenus par leurs épouses, bien sûr. Il n'y a pas de vacances pour les parents chrétiens. Deutéronome 6, verset 7, « Tu les inculqueras, donc c'est-à-dire les paroles de Dieu, à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, autrement dit, à toute occasion de la journée, profitez de chaque occasion qui se présente pendant la journée pour enseigner la parole de Dieu à vos enfants. » Les enfants ne grandissent pas de manière automatique, vous savez. Même leur corps ne grandit pas de manière automatique. Il faut les nourrir. Il faut en prendre soin et parfois il faut aller chez le médecin. Leur croissance physique requiert une attention quotidienne, sans relâche. Et que dire de leur croissance spirituelle? Même chose. Elle requiert la même attention. Ça ne viendra pas de façon automatique, leur vie spirituelle. Oui, la grande promesse de Dieu est scellée par le baptême. Et pour nous, pour nos enfants, promesse de pardon en Jésus-Christ, promesse de vie nouvelle par son Esprit. C'est vraiment un don merveilleux de la grâce en Jésus-Christ qui est promise. Une œuvre libre et souveraine du Saint-Esprit dans le cœur des enfants. C'est lui qui fait cet ouvrage, cette œuvre. Mais ça requiert en même temps de la part des parents, premièrement du Père, une attention constante, quotidienne, sans relâche, continuelle. Éduquez-les chaque jour en profitant de toute occasion. Vous savez, le péché est profondément enraciné dans le cœur de tout être humain. Et ce n'est pas facile à avaler, je le reconnais. Et ça inclut nos enfants qui sont corrompus dès leur plus jeune âge. D'où la nécessité de les élever en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Le mot grec ici, traduit par « corriger », c'est le mot « paideia ». Ça sonne quelque chose, hein? Pédagogue, pédagogie, c'est des mots français qui viennent du grec paideia. La paideia, ça désigne tout le système d'instruction et d'enseignement que nous sommes appelés à transmettre à nos enfants, incluant les règles dans notre foyer, incluant les récompenses, incluant les punitions. La paideia peut aussi signifier certaines punitions particulières si nécessaire. Et le mot « avertir », « noutessia », signifie avertissement, exhortation, mais aussi encouragement. Il ne suffit pas de dire oui ou non à l'enfant. Il doit comprendre que la parole des parents se transforme en action. de vraies punitions ou de vraies récompenses. Papa et maman ne font pas juste des menaces en l'air ou des promesses en l'air. Beaucoup de parents, malheureusement, disent toutes sortes de menaces à l'enfant, incroyables, qu'ils ne seront jamais capables d'exécuter parce que ça n'a aucun sens. Si tu ne me suis pas, je vais t'abandonner là dans le magasin. Ben non, c'est sûr qu'on ne va pas faire ça. Alors, que vos menaces, vous puissiez réellement les exécuter parce que sinon, votre parole n'est plus crédible. Donc, dire une parole et l'accomplir. C'est ça que ça veut dire ici. Et en plus, les enfants, on doit leur expliquer les raisons. Très souvent, bien sûr, ils vont savoir les raisons. On n'a pas toujours besoin de leur expliquer. Parfois, on leur explique beaucoup trop. Mais d'autres fois, ils ont vraiment besoin d'explications, prendre le temps d'expliquer. C'est ça que ces mots veulent dire. Et les explications dont l'enfant a le plus besoin sont celles de la parole de Dieu. Pas juste de notre propre sagesse, mais de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Paul dit ici, « Élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Pas n'importe comment, mais selon le Seigneur, c'est-à-dire selon sa parole, selon sa volonté. « Vous les pères, vous avez l'outil le plus précieux entre vos mains, la Bible, la parole de Dieu, pour instruire, corriger, avertir, encourager vos enfants. Oui, la parole de Dieu sera pour vous et vos enfants une lampe à leurs pieds, une lumière sur leur sentier. Avec la Bible, ils apprendront d'où ils viennent, leur origine, qui ils sont, leur identité. On parle beaucoup d'identité aujourd'hui, hein? Quel est leur plus grand problème, le péché, leur révolte contre Dieu? Quels moyens Dieu nous a donnés pour régler ce problème? La personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Quelle grande promesse Dieu nous a faite et a faite à nos enfants. Le pardon des péchés, la vie nouvelle, la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu nous demande, ses commandements? Quel est notre avenir, l'espérance de la résurrection? Rien n'est plus précieux à transmettre à nos enfants, et c'est dans la Bible que ça se trouve. Les pères ne seront pas trop exigeants envers leurs enfants pour éviter de les irriter. En même temps, ils ne les laisseront pas faire tout ce que les enfants veulent faire non plus. Nos enfants ont besoin d'être corrigés, éduqués, avertis, encouragés dans le Seigneur pour en arriver à reconnaître la gravité de leurs péchés, pour s'en repentir humblement et pour croire en Jésus-Christ qui est leur véritable sauveur. Nous ne pouvons pas juste corriger et avertir nos enfants. Nous devons le faire dans le Seigneur pour que la lumière du Seigneur brille dans notre foyer et brillent dans leur vie, par la seule grâce de Dieu. Voyez maintenant la nécessité d'avoir des pères remplis de l'Esprit. Leur vocation est inestimable. Que notre grand Dieu et Père de Jésus-Christ suscite, inspire et soutienne de tels pères parmi nous et dans son Église en général, pour sa plus grande gloire et pour le plus grand bien de son Église. Amen.